m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, avec courtoisie.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous, en effet, vous êtes bien sur Radio Courtoisie, autant vous dire qu'on va beaucoup vomir sur des ordures aujourd'hui. Alors, l'émission Restons Courtois, vous connaissez, chaque jour, en direct, de 17h30 à 19h30, au programme de cette émission, deux sujets brûlants, dont un peu plus explosif encore. On reçoit tout d'abord Grégoire Pupin, qui est juriste, docteur en droit, directeur général de l'ECLJ, le Centre Européen pour le Droit et la Justice. Vous connaissez bien Grégoire Pupin, qui vient régulièrement sur nos antennes, parce que vous savez, malheureusement, la loi sur l'euthanasie pour seringuer les vieux est encore en discussion à l'Assemblée. Certains ne lâchent rien et veulent impérativement la faire passer avant le départ de ce bon Emmanuel Macron. Donc nous allons en discuter, savoir un peu où nous en sommes aujourd'hui, puis les conséquences, savoir s'il y a des nouveaux amendements ou pas qui ont été votés, d'autres peut-être qui ont été refusés. Bref, un bel état de lieu sur ce qui se passe en ce moment. À 18h30, nous recevrons les journalistes Rodolphe Carte et Emmanuel Rechberg. Emmanuel Rechberg d'ailleurs qui est déjà sur ce plateau. Je rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Emmanuel Rechberg qui officie dans les pages de l'Incorrect, qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle « Le vrai coût du progressisme », en gros pour savoir combien coûte la gauche en France chaque année, aux éditions L'Artilleur. Bah, vous l'achetez, vous verrez, c'est assez effrayant. Emmanuel Rechberg qui fait cauchemarder toutes les associations de gauche parce qu'il passe son temps à les espionner, à regarder dans leur moindre compte, moindre ligne comptable, ce qu'ils cachent, ce qu'ils magouillent. Et autant vous dire, c'est pas joli. Vous l'avez découvert lundi, cette table-là, avec Pierre-Alexandre Bouclet. Nous avons lancé avec Logim, avec Boulevard Voltaire, et donc Magazine L'Incorrect et Radio Courtoisie, une grande contre-enquête sur l'écosystème associatif de gauche, et l'usage des reçus fiscaux. Je vous rappelle que c'est à peu près plus de 3,5 milliards d'euros de dépenses fiscales par an. La gauche en a également est assez présente dans cette défiscalisation, et pas forcément pour le meilleur. Donc nous avons passé plus de 200 associations au crible, nous avons retenu une cinquantaine, plus que douteuses, et donc nous vous les révélons jour par jour. On a commencé avec l'Institut La Boétie. Aujourd'hui, c'est l'ADMD, ça compte bien, l'aide à mourir dans la dignité, qui passe son temps à essayer de convaincre les députés que pour soigner et aider les gens et les aimer, il faut les tuer. Et demain, vous en aurez d'autres, des bien belles également, assez anciennes, qui nous font du mal. Bref, on va vous dévoiler tout ça. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez participer à l'émission, poser vos questions par courriel à courtoisie@rc.fr. Grégoire Pupin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. La dernière fois que vous étiez à ce micro, c'était encore pour parler de l'euthanasie, parce que malheureusement, les pros seringues ne lâchent pas. Malgré les multiples allers-retours, malgré les refus, malgré les rejets, ils continuent, ils insistent. Et donc la loi est revenue au Parlement pour la troisième fois. Malheureusement, donc c'est en cours actuellement, donc je le rappelle encore une fois, vous êtes docteur en droit, directeur général de l'ECLJ, le Centre Européen pour le Droit et la Justice. Je vous rappelle également que vous avez écrit une note qu'on peut trouver sur votre site, la promotion de l'euthanasie, les promoteurs de l'euthanasie au XXe siècle, une note très informative, assez effrayante, qui révèle que cette idéologie est très ancienne. Et surtout très, sont des monstres en fait qui pensent ces idées-là. Et qui essaie encore de les impliquer aujourd'hui à cette époque où on parle d'humanisme et de progrès. Et vous êtes l'un des juristes les plus engagés évidemment contre cette loi, vous la décryptez, la combattez depuis le début du processus législatif. À ce sujet d'ailleurs, pour ceux qui sont croyants, puis même pour ceux qui ne le sont pas, c'est pas grave, ça coûte pas cher d'essayer, il y a Hosanna qui est une application et un site qui lance des neuvaines de prière. Ils ont lancé une neuvaine de prière sur la loi euthanasie. Une mobilisation d'un nouveau genre dans le contexte du vote sur ce projet de loi. Ils sont déjà à 25 000 inscrits en quelques heures et la jauge ne cesse de progresser. Donc pour ceux qui croient, inscrivez-vous. Pour ceux qui ne croient pas, vous allez voir, ça ne coûte pas cher, ça ne vous fera pas de mal et peut-être que vous y verrez la lumière. Inscrivez-vous et puis, sait-on jamais, ça peut marcher. Les lois du Seigneur sont impénétrables et puis surtout, déplacent les montagnes. Alors, commençons sur l'euthanasie. Grégoire Pupin, qu'est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de où nous en sommes actuellement? Je rappelle que c'est en débattu au Parlement, mais bon, il y a tellement d'allers-retours qu'on ne sait plus vraiment où nous en sommes.
Merci beaucoup de l'invitation. Effectivement, nous sommes encore dans des allers-retours. Je vous remercie d'avoir mentionné la neuvaine, si vous permettez que je fasse un petit aparté, parce que c'est vraiment une question centrale. Le clivage, en fait, sur l'euthanasie, c'est très souvent le rapport à la mort et donc le rapport à la vie, donc le rapport à Dieu. Et il est vrai que les promoteurs de l'euthanasie sont aussi toujours, historiquement, des personnes qui sont foncièrement, on va dire, opposées à la religion, opposées au christianisme, qui ont une vision assez nietzschéenne ou anti-religieuse, on va dire, de la nature humaine. Donc, il y a un vrai clivage. Et je suis très heureux, on va dire, de cette manière, que les chrétiens, maintenant, osent combattre aussi avec les armes de la prière, parce que c'est là le véritable enjeu. La Conférence des évêques de France a elle-même lancé une neuvaine, ce qui est aussi remarquable parce qu'elle était peut-être un peu silencieuse sur le terrain de la prière. Donc c'est tardif, très tardif, mais c'est quand même remarquable. Autre élément intéressant, il y a des neuvaines qui circulent où en fait des personnes, hein, des croyants, des catholiques sont invités à prier pour leurs députés en particulier. Et donc ça, c'est encore plus efficace en termes de prière. Ça veut dire que des personnes peuvent s'inscrire pour dire une neuvaine pour leurs députés. Voilà, donc c'est un élément, je pense, qui est majeur, que vous avez souligné en entrée, et qui est vraiment important, parce que c'est quand même largement autour de cette question de la foi que se joue l'euthanasie. Si la France est à deux doigts de légaliser l'euthanasie et le suicide, c'est parce qu'elle est dans un processus de déchristianisation. Si on revient un peu dans le passé, la France la situation européenne a abandonné la pratique du suicide lorsqu'elle est devenue chrétienne. À l'époque romaine, le suicide, la mort volontaire était usuelle. C'est en devenant chrétienne qu'elle a pris conscience de la valeur de la vie des personnes handicapées, des personnes malades, etc. Et maintenant, avec la déchristianisation, il y a cette forme de reflux, de retour de ces vieilles pratiques, comme l'euthanasie et le suicide. Donc l'enjeu vraiment est spirituel, l'enjeu tourne autour de la question de la place de la transcendance, la place de Dieu dans la société. Donc ceci étant dit, je voulais vraiment quand même insister.
Ah, vous avez raison, c'est important de le rappeler.
Ouais, c'est important parce que c'est le cœur du sujet en fait. Alors ensuite, plus prosaïquement, où en sommes-nous? Ben voilà, donc nous sommes dans la dernière ligne droite, la dernière lecture après la commission mixte paritaire. Donc vous savez, il y a eu, sur décision du gouvernement, la convocation d'une commission qui rassemblait des délégués du Sénat et de l'Assemblée pour essayer de trouver un accord sur un texte. Cette commission, le gouvernement avait le choix de la réunir ou non. Il aurait très bien pu ne pas la convoquer. Pendant quelque temps, on a pensé que M. Le Cornu ne la convoquerait pas. Il l'avait dit, en fait, lui-même, qu'il voulait laisser le débat continuer. Si bien qu'on a pu penser que le débat allait quelque peu s'enliser et même se perdre dans les délais de l'Assemblée. Finalement, le Premier ministre a anticipé, a décidé d'imposer cette commission mixte, qui bien sûr a échoué, ce qui a maintenant déclenché, on va dire, la lecture finale, d'abord à l'Assemblée, maintenant, puis au Sénat, et enfin, dernier mot prévu pour l'Assemblée nationale le 15 juillet prochain.
Donc là, c'est l'Assemblée nationale. Ça va être voté, ensuite ça doit repartir au Sénat, et ensuite ça va revenir au Parlement, quoi, à l'Assemblée, sachant qu'au Sénat, ça fait déjà deux fois qu'il l'aboute de l'autre côté de la frontière du Sénat. Donc on peut imaginer qu'il n'y a pas de raison qu'au Sénat, l'issue ne soit pas la même que les deux fois précédentes, mais ça sera quand même voté à l'Assemblée, ce qui veut dire que les sénateurs, finalement, on peut toujours se poser l'utilité de leur vote. Si même quand ils disent non, ça revient quand même.
Disons que ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'Assemblée, a priori, oui, ça devrait être adopté, mais il peut toujours se passer des surprises. Le soutien à l'Assemblée nationale a diminué au fil des lectures. À chaque fois, il y a de moins en moins de députés favorables, donc la majorité se réduit. On a eu la surprise hier soir d'un amendement de Mme Laureau qui a été adopté justement parce qu'il y a eu quand même une forte opposition au texte dans l'hémicycle. Le scénario le plus plausible, c'est un vote à l'Assemblée cette semaine, un renvoi au Sénat qui rejette l'ensemble du texte comme les deux fois précédentes, début juillet, et ensuite un vote final le 15, avec saisine du Conseil constitutionnel dans la foulée.
Ça le 15 juillet
dans les... Ouais, dans les jours qui suivent, dans les 2-3 jours qui suivent, il faudra que des sénateurs ou des députés saisissent le Conseil avant que le gouvernement promulgue la loi. Donc il y a un tout petit délai, normalement 48 heures, pour saisir le Conseil. Et là, le Conseil constitutionnel dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. Et donc là, pas mal, quelques juristes travaillent à préparer les saisines hein, du Conseil, à soulever tous les arguments de droit constitutionnel. Ça veut dire que là, ça nous renvoie à environ le 17 août, 17-18 août, pour une décision au plus tard du Conseil constitutionnel qui ouvre la voie à une promulgation de la loi. Et puis, quelques semaines plus tard, l'arrivée du pape à Paris, voilà, pour clôturer toute cette séquence. Sachant qu'après la promulgation, il peut encore y avoir des procédures en droit international ou à la CEDH qui peuvent intervenir, mais bien sûr avec des inefficacités moindres ou des délais plus longs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu des tractations entre le gouvernement, l'opposition, notamment autour de la question du délit d'entrave, je pense qu'on pourra y revenir, pour essayer de trouver un accord, de faire passer le texte. Donc, il y a quand même une évolution entre la deuxième et la troisième lecture. Certaines dispositions ont changé. Voilà. Et ces changements ne sont pas le fruit simplement de la volonté des parlementaires. C'est souvent en fait des changements qui ont été décidés d'abord à l'Élysée et qui ensuite ont été communiqués au Parlement.
Rémi Kerlu.
Oui, avant de rentrer peut-être dans le détail du texte, pouvez-vous nous faire un état des lieux du rapport de force politique sur le sujet, et notamment de la position des différents groupes parlementaires et de leur évolution, puisque comme vous l'avez dit, le soutien pour le texte, s'il reste majoritaire, s'érode au fur et à mesure des lectures. Donc quels sont les groupes qui ont un peu évolué sur la question et comment d'ailleurs, de manière plus générale, comment chacun se positionne-t-il sur ce texte?
Oui, bon, écoutez, c'est grosso modo, si on prend l'extrême gauche est généralement favorable au texte, sauf quelques élus musulmans qui se sont éclipsés à plusieurs reprises au moment des votes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voté contre, mais ils ont se sont abstenus ou ils ont évité de voter. Ça, c'est pour le groupe LFI. Sinon, la gauche, on va dire habituelle. Et le parti macroniste est très majoritairement, même quasiment entièrement favorable à l'euthanasie. Tout ce qui est plutôt le parti plus centriste, là, c'est partagé. On a quand même des personnes qui ont soit se sont abstenues, soit ont rejoint les camps de... Enfin, on rejoint l'opposition au texte. Donc c'est là qu'il y a eu le plus grand nombre de bascules dans le centre. À droite, globalement, c'est l'opposition. Opposition totale chez les ciottistes, avec d'excellentes interventions des députés du groupe d'Éric Ciotti. Je pense à Vincent Trébuchet, en particulier, qui a très bien parlé et qui est très clairvoyant. Ensuite, au RN, là, c'est partagé. Il y a une majorité qui est opposée au texte. Mais il y a au sein du Rassemblement national un groupe de députés qui lui, par contre, sur les questions de société, hein, pas uniquement l'euthanasie, mais en particulier l'euthanasie, sont en fait favorables à l'euthanasie parce que ce sont des personnes qui, en fait, ne partagent pas la culture, on peut dire, chrétienne hein, de la France. Ce sont des personnes qui ont une autre approche de la pensée de droite et qui en fait ont voté pour hein, pour l'euthanasie très clairement. Donc il y a dans tous les partis à l'exception du groupe de Ciotti division divisée, mais globalement le RN est majoritairement contre. Le centre est partagé, mais de plus en plus contre. Et la gauche fait front au soutien de l'euthanasie, à l'exception de quelques musulmans de gauche.
Donc ça veut dire que ceux qui ont changé d'avis sont ceux du centre. Du côté du Rassemblement national, ils sont ceux qui sont pour, n'ont pas changé d'avis. Du côté des LR, les les rares qui ont voté pour la loi n'ont pas changé d'avis non plus, donc ça se fait au centre. La bascule se fait au centre, c'est ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a, juste en ratio de voix, on sait et combien de voix il manque pour que le texte soit recalé?
Alors, écoutez, j'ai pas l'information, je suis navré, j'ai pas l'information précise là-dessus, je crois que c'est une quarantaine de voix.
C'est toujours une quarantaine à peu près. Alors, si on peut revenir sur le texte aujourd'hui, parce que avec tous les allers-retours qu'il y a eu, la première version du texte était très très radicale, ils avaient fait tomber tous les garde-fous. Aujourd'hui, ils votent sur quel type de texte? Est-ce que c'est le même qu'en première lecture, ou le texte a évolué?
C'est globalement le même texte qu'en première lecture. Il y a eu, il y a eu très peu d'évolution. Les questions qui sont restées ouvertes, on va dire, c'est de savoir si l'euthanasie est une exception ou si ça devient une pratique qu'on peut demander d'emblée. Là-dessus, il y a eu des changements. Grosso modo, les députés plus réservés disent que l'aide au suicide devrait être le principe et l'euthanasie uniquement une mesure exceptionnelle lorsque la personne ne peut pas se suicider. Tandis que les promoteurs de l'euthanasie veulent pouvoir faire de l'euthanasie un premier choix pour toute personne. Alors ça a une dimension symbolique, c'est parce que finalement ça montrerait que l'euthanasie serait vraiment une forme de soins, ça encouragerait l'euthanasie. Et donc là-dessus, il y a un débat. Aujourd'hui, l'Assemblée est revenue à l'idée qu'il n'y aurait pas d'exception d'euthanasie, que l'euthanasie doit être ouverte à toute personne, au même titre que le suicide assisté. Sachant qu'en fait, en pratique, ce qu'on constate, c'est que lorsque une personne demande le suicide assisté, il y a un beaucoup plus grand taux de personnes qui renoncent à la fin à se faire l'injection. Les personnes renoncent davantage au suicide assisté qu'à l'euthanasie. Les personnes ont moins peut-être le courage de dire au médecin à la dernière minute « finalement, je ne veux plus mourir ». Alors que c'est beaucoup plus fréquent en matière de suicide assisté dans les pays où c'est réalisé. Donc ça, c'est un aspect qui a bougé. Sinon, tous les amendements qui ont été déposés à répétition par les députés, par les sénateurs, pour essayer de renforcer la protection des personnes vulnérables, pour demander l'intervention du juge, par exemple, pour les personnes sous protection, pour rallonger le délai de réflexion qui aujourd'hui est seulement de 2 jours, ce qui est considérable. Tous ces amendements ont été rejetés. Les amendements pour offrir aux proches le droit d'être informé, pareil, a été rejeté. Donc, c'est les amendements pour interdire, par exemple, les gains financiers ou interdire la publicité en faveur de l'euthanasie et du suicide assisté ont été rejetés. Donc, on peut vraiment dire que là-dessus, c'est la pression est restée maximale du côté des promoteurs de l'euthanasie. Ils ont cédé à la demande de l'Élysée et de Matignon seulement sur le délit d'entrave. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc, pour les auditeurs, le délit d'entrave, c'est un nouveau délit qui a été introduit dans le texte par un amendement LFI qui visait à punir de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende toute personne qui essayait de convaincre ou d'empêcher un proche de recourir à l'euthanasie ou au suicide assisté. Donc sur ce délit d'entrave, là, il y a eu un retrait qui résulte d'une négociation et aussi du fait que ce délit était quand même fragile au plan constitutionnel, ouais. Aurait pu être retoqué par le Conseil.
C'est ça, est-ce qu'il n'y a pas justement dans ce délit d'entrave, c'est la question que je voulais vous poser, de la part de l'Élysée, comme Emmanuel Macron veut impérativement que cette loi soit votée, vous nous expliquerez peut-être pourquoi, c'est cette volonté justement de faire et ceinture et bretelle avant le passage devant les juges du Conseil constitutionnel et donc de tout ce qui peut potentiellement sauter, parce que c'est vrai que le délit d'entrave c'est quelque chose qui est compliqué à imaginer, valide juridiquement, je vois pas comment on pourrait valider la non-assistance à personne en danger et en même temps en même temps punir du délit d'entrave. Donc c'est vrai que ça aurait été un peu acrobatique pour un juge constite de valider ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette volonté dans les amendements qui nous paraissent les plus excessifs de les supprimer de la part de l'Élysée, cette volonté en fait que la loi passe impérativement?
Certainement, il y a cela. Il y a aussi peut-être des discussions autour de la venue du Saint-Père en septembre. Vous savez que le délit d'entrave, on en avait parlé à votre antenne, aurait exposé les congrégations hospitalières à donc cette peine de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Et donc, c'est un point sur lequel nous, le CIJ, nous avons travaillé de façon considérable pour défendre la cause des établissements hospitaliers et religieux en particulier. On a obtenu que la rapporteure spéciale des Nations Unies pour la défense de la liberté de religion s'adresse directement au gouvernement français. Donc avec une religieuse, nous sommes allés à Genève, aux Nations Unies, pour rencontrer cette rapporteure spéciale qui a été sensible à ce problème réel de ce délit d'entrave et qui nous a assuré écrire au gouvernement français pour leur demander de le retirer du texte de la loi. Donc il y avait une vraie fragilité, tant en droit interne, comme vous l'avez souligné, mais aussi en droit international. Ensuite, c'était le point d'achoppement majeur, un point d'achoppement majeur avec l'Église catholique, et donc dans la perspective de la venue prochaine du pape en France, il est possible que le gouvernement ou que M. Macron en ait tenu compte. Il n'empêche que, donc c'est quand même une bonne nouvelle qu'il ait été retiré, mais il ne faut pas trop s'en réjouir non plus, parce que dans le texte demeure l'obligation pour tout établissement, y compris confessionnel, d'accepter la pratique de l'euthanasie dans ses murs. Voilà, donc ce sont des négociations, on va dire, à différents niveaux qui se sont jouées. Et là, le gouvernement a vu, ou M. Macron a vu, qu'il était préférable pour eux de céder sur ce point.
Rémi Carlu.
Oui, deux stratégies, de manière un peu caricaturale, mais disons le camp des pour avait deux stratégies, soit la stratégie minimaliste qui était celle de faire passer au plus vite un texte, le texte le moins exigeant possible pour ensuite pouvoir le renforcer au fur et à mesure des ans, et puis à l'inverse, il y avait une stratégie maximaliste qui était de voter dès maintenant, dès à présent, le texte le plus radical possible. Donc si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est que c'est plutôt cette deuxième stratégie qui a été adoptée, à l'exception de Zélie d'entrave qui a été retiré pour des questions de constitutionnalité.
Voilà, en fait, ils ont vraiment poussé le bouchon le plus loin possible. Je pense qu'ils ont même été surpris de voir avec quelle facilité ils ont pu pousser le texte à l'extrême. Les députés l'ont souligné, nous on l'a souligné. Je vous ai parlé là du délai de réflexion de 2 jours. Enfin, j'insiste pour les auditeurs, 2 jours entre le moment de la demande et le moment de l'acte. C'est quand même incroyable. Donc oui, ils ont choisi le texte le plus... ils ont choisi la stratégie de la radicalité. Le délit d'entrave, comme je l'ai dit, n'était pas dans leur projet initial. Ça a été introduit dans une précédente proposition de loi par le groupe LFI, en copiant le texte relatif à l'avortement. Donc ils ont pu céder sur ce point sans vraiment renoncer au cœur de au cœur de leur texte. C'est quand même pour eux une concession tout à fait secondaire et qui était d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, très, très fragile, donc qui n'est pas du tout essentielle. Sur l'essentiel, tout est conservé. Alors pour récapituler, toute personne quasiment qui est atteinte d'une maladie grave, engagée, peut demander l'euthanasie si cette personne effectivement est déjà dans un processus, mais bon, un processus de maladie avancée, y compris pour des motifs d'ordre psychologique. La demande n'est pas nécessairement écrite. La demande n'est pas nécessairement écrite. La demande n'est pas non plus nécessairement formulée devant un témoin. Ça veut dire qu'une personne sans témoin et à l'oral seulement peut exprimer sa demande à un médecin. Et c'est ce même médecin qui ensuite va superviser l'ensemble de la procédure. C'est lui qui va affirmer que la personne a fait la demande, c'est lui qui va choisir qui consulter, mais consulter seulement, non pas co-décider, mais consulter sur l'opportunité ou non de pratiquer la fin de vie au regard de l'état de santé de la personne. C'est lui qui ensuite peut pratiquer l'euthanasie ou préparer le suicide assisté. C'est aussi lui qui va faire le dossier qui sera ensuite remis à la commission d'évaluation a posteriori. Donc en fait, c'est ce même médecin qui peut être à chaque étape du processus et qui peut enclencher le processus sans même qu'il y ait une demande, je le répète, devant témoin ou une demande écrite. Donc c'est vraiment extrême. La famille n'a pas un droit à être informée. Elle peut être informée, mais elle n'a pas un droit à être informée. La famille est privée des droits de recours contre la décision du médecin. Ça veut dire que si vous apprenez qu'un médecin veut euthanasier votre frère, votre sœur, votre époux, votre conjoint, vos parents, vous ne pouvez en principe rien faire. Vous êtes absolument ligoté. Et donc c'est et le tout peut être fait en moins d'une semaine, en 3-4 jours. Donc c'est vraiment extrême. C'est une conception, c'est porté en fait par un mélange de à la fois une idée extrême de la liberté en disant rien ne doit entraver la liberté individuelle de mourir et donc tout doit être facilité. Donc c'est cela. Et puis en même temps, c'est aussi, l'idée que dans l'état dans lequel se trouve la France aujourd'hui, de vieillissement, nous allons avoir un nombre énorme de personnes âgées dans les prochaines décennies, un coût énorme pour la société de leur entretien. Et il faudra faciliter, comme on a fait d'ailleurs aussi pour d'autres pratiques, faciliter le recours à la mort anticipée.
Romaric Sangars.
Oui, pour revenir au début même de notre conversation, on parlait de rupture anthropologique, et avec quoi je suis en effet tout à fait d'accord, d'où le recours éventuellement à la prière. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur la comparaison avec le suicide païen, justement. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer un cap qui est quand même très différent, sans vouloir forcément réhabiliter le suicide à la romaine? Il a tout de même un peu d'élégance, et puis il s'agissait quand même d'une pratique aristocratique dans les mœurs, qui était une manière de considérer que la vie devait être vécue pour une certaine caste, à une certaine hauteur, et qu'on refusait de s'abaisser, ce qui est évidemment, d'un point de vue chrétien, un acte d'orgueil complet. Mais enfin, on n'emmerdait pas toute la société avec ces choses-là. Alors que là, ce qui est tout de même très différent avec le suicide à la romaine, c'est justement qu'on demande à la société un tampon, des moyens techniques. Et ça change. Alors, c'est là où il y a une rupture anthropologique beaucoup plus grave, me semble-t-il, parce qu'en effet, on ne peut plus y échapper. Et à la limite, il y a toujours eu des gens, même dans le siècle dernier, qui, dans des situations difficiles, qu'elles soient morales, historiques ou en effet de maladie, ont décidé de mourir, de se donner la mort. Ils n'ont jamais voulu incriminer tout le monde. Là, est-ce qu'il n'y a pas justement une dimension beaucoup plus vaste, beaucoup plus grave? Et en fait, allons-y carrément, quasiment satanique finalement, c'est bien plus qu'un simple retour en arrière, vraiment quelque chose de volontaire et de particulièrement malsain. Pourquoi aussi demander d'incriminer tout le monde? Parce qu'il s'agit aussi de ça, c'est-à-dire que toute la société devient complice en fait avec une loi pareille. Ouais. Et pourquoi aussi cette insistance pour que ça passe par des voies légales? Parce que de la même manière, on pourrait très bien dire, moi dans ce genre de situation, je refuse d'être un poids pour mes proches. Bref, on connaît tous ces arguments, on les connaît, on les entend, ils sont humains, ils sont entendables, mais on peut les combattre pour différentes raisons. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette passion en fait de vouloir faire rentrer ça dans des tables de la loi? Pourquoi le progressiste veut des lois absolument, ce qui peut paraître très paradoxal pour des gens qui prétendent par ailleurs être individualistes?
Oui, vous avez bien raison. La pratique de la mort volontaire romaine, qui est bien sûr perdure, c'est une pratique qui est plutôt individualiste. Et là, ce qu'on nous propose, c'est une vision totalement socialiste de l'organisation de la mort. Presque une vision collective, on va dire, de la gestion de la mort. Alors, chez les promoteurs de l'euthanasie, il y a toujours eu les deux. Ça veut dire que, d'un côté, ils promeuvent la mort volontaire, le suicide, que vous dites un peu aristocratique, pour, entre guillemets, les surhommes, ceux qui sont capables de le faire. Mais cet orgueil, au bénéfice des surhommes, a toujours été joint, associé à une forme de mépris pour les sous-hommes. quand il y a surhomme, il y a sous-homme, et ce mépris pour les sous-hommes, c'est le mépris pour les enfants handicapés d'abord, hein, essentiellement les nourrissons, qu'il fallait supprimer, et puis le mépris pour la vieillesse, la maladie, la dégénérescence, et qui justifiait aussi de supprimer les personnes, presque par respect en fait pour l'humanité, en disant il ne faut pas que la personne, que l'humanité puisse déchoir avec la déchéance physique, et donc pour préserver l'image de l'humanité, il faut supprimer la vie de la personne. Et donc ces deux approches ont toujours coexisté dans les mouvements qui promeuvent l'euthanasie, et ensuite il y a aussi une dimension utilitaire qui a été avancée, utilitariste, financière, qui relève plus de l'argumentaire que vraiment de la conviction. Ça veut dire que c'est souvent un argument qui a été employé par ses promoteurs pour dire, voilà, écoutez, ça coûte très cher à la société. En Allemagne, par exemple, ou aux États-Unis, hein, l'euthanasie a été promue auprès des politiques pour des raisons financières, mais ce n'était pas la motivation fondamentale de ceux qui faisaient cette promotion. Alors pourquoi vouloir impliquer la société? Il y a vraiment, effectivement, un paradoxe, hein, mais c'est pareil sur d'autres aspects, hein. Où on demande à la société en fait de réaliser notre liberté. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que si vraiment l'euthanasie ou le suicide c'était un acte de liberté, eh bien on ne demanderait pas à l'État de le faire à notre place. Voilà, donc ça montre bien qu'on conçoit la société comme c'est plus que l'État-providence, hein, c'est la société mère poule qui gère notre existence de la conception, de la procréation à la mort, quoi. Et encore au-delà bientôt. Probablement avec la gestion des corps. Alors, est-ce qu'il y a un aspect démoniaque là-dedans? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que la loi a quand même quelque chose de sacré, même dans un pays laïque. La loi, c'est quand même la référence de la morale, la référence du juste, l'expression de la volonté d'un peuple. Et si on met dans la loi... eh bien, le meurtre. Si on promeut le meurtre comme un acte bon, eh bien sûr, c'est l'ensemble de l'ordre social qui est subverti. Voilà, c'est la subversion de l'ordre assumée et non pas l'exception par la décision du suicide de l'un ou de l'autre qui viendrait s'exprimer à côté de ce principe. Voilà.
Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, je rappelle, chaque jour en direct de 17h30 à 19h30, et nous sommes avec Grégoire Pupinck, qui nous explique et analyse le basculement anthropologique qui est en train d'être discuté et voté à l'Assemblée nationale. Mes chers auditeurs, vous le savez, pour que nous puissions continuer à parler de choses qui fâchent et qui déplaisent, nous avons besoin de vous.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr. et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous parlons euthanasie avec Grégoire Pupinck, mais vous savez qu'à 18h, c'est l'heure de la chronique de Rémi Carlu. Rémi Carlu, il y a un anniversaire en ce moment, 10 ans, le Brexit.
Et oui, cher Arthur, la valse serait-elle devenue la danse officielle de nos voisins britanniques? C'est en tout cas ce que laisse entendre la démission de son Premier ministre Keir Starmer, qui vient de quitter ses fonctions moins de 2 ans après une victoire triomphale aux élections législatives de juillet 2024. Très contesté en interne, Starmer n'a pas pu résister à l'ascension de son principal opposant au sein du Labour, à savoir Andy Burnham, alias le Roi du Nord, le très populaire maire du Grand Manchester, qui a été élu vendredi dernier à la députation. Après 2 échecs en 2010 face à Ed Miliband et en 2015 face à Jeremy Corbyn, il devrait enfin réussir à prendre la tête du Labour et par là même à emménager au 10 Downing Street pour les mois à venir. Il deviendra alors, accrochez-vous, le 7e Premier ministre britannique en une décennie, 7 gouvernements en 10 ans. Et la raison de cette instabilité chronique tient en un mot, Brexit, dont on fêtait hier justement les 10 ans déjà. Et c'est bien simple, depuis le Brexit, les gouvernements tombent les uns après les autres à une vitesse qui ferait presque pâlir notre piteuse 4ème République.
Alors comment expliquez-vous une telle instabilité gouvernementale ?
Eh bien c'est que le Brexit n'était pas un programme de gouvernement en soi. Il était simplement, si j'ose dire, un retrait de l'Union Européenne. Un retrait d'une audace folle qui mettait à terre l'ordre du monde progressiste dont on nous faisait croire qu'il était indiscutable et qui permettait à un peuple de reprendre la main sur son devenir. Mais encore fallait-il faire quelque chose de cette souveraineté retrouvée. Et ce quelque chose pouvait prendre mille formes et contours, plus ou moins proches des attentes de ceux qui avaient voté en sa faveur. Le Brexit n'était qu'un préalable qui ouvrait le champ des possibles, un comment qui demandait à ce que l'on interroge le pourquoi. Bref, ce n'est pas le Brexit qui comptait, mais ce que l'on en faisait. Et c'est là que les gouvernements successifs ont failli, incapables qu'ils ont été de mettre en œuvre l'ordre nouveau de la Grande-Bretagne libérée. J'en tiens pour preuve ces ambiguïtés fondatrices. Ce sont les classes populaires périphériques, pour défendre leur identité et leurs services publics, qui ont fait gagner le Brexit. Brexit que certaines élites ont aussitôt voulu tordre en un sens pro-business pour faire de l'île une Singapour sur Tamise, quand d'autres prenaient bientôt un rapprochement avec l'UE. Au fond, c'est le problème des référendums qui coalisent derrière un oui ou un non des projets extrêmement différents. Certains électeurs parlent maintenant d'un Brexit volé, empêché par les élites, et il faut leur accorder que la gouvernance britannique verse dans l'absurde, puisque sur les 6 premiers ministres à avoir pris les commandes du pays depuis le référendum, seuls 2 étaient des Brexiteurs revendiqués, Boris Johnson et Richie Sunak. C'est comme confier le barbecue à un vegan.
Mais bien justement, quel bilan peut-on tirer de la Grande-Bretagne post-Brexit ?
Eh bien, signalons avant tout que l'apocalypse promise par les progressistes pour intimider les électeurs n'a jamais eu lieu, et que l'économie britannique se porte franchement mieux que l'économie française. Il s'agissait donc d'une fake news grossière que les fact-checkers officiels semblent dénoncer avec une certaine retenue. Le principal stratège de la campagne du Brexit, Dominic Cummings, a affirmé que les 2 arguments décisifs ayant fait basculer le résultat étaient 1. La promesse de rediriger vers le NHS, le système de santé, les 350 millions de livres hebdomadaires jusqu'alors versés à l'Union Européenne, et 2. La réduction, bien sûr, de l'immigration. Alors pour ce qui concerne le NHS, l'objectif du Brexit est partiellement rempli. Le chiffre de 350 millions placardé sur le fameux bus rouge de Vote Leave était sans doute très exagéré, mais le système de santé britannique a bien connu une hausse effective de ses financements depuis le Brexit. En 2018, Theresa May avait promis une hausse annuelle de 3,5% hors inflation grâce aux fonds dégagés par la fin de la contribution européenne. Et cette promesse a été tenue, et elle a même été largement dépassée avec le Covid. Pour ce qui concerne l'immigration, en revanche, c'est un échec retentissant. Le Brexit a d'abord provoqué une explosion sans précédent des flux migratoires, avant qu'un train de mesures restrictives voté à partir de 2024 ne reprenne peu à peu les choses en main. Si l'on compare les niveaux de 2015 et 2025, le nombre d'entrées sur le territoire britannique a augmenté de 30%. Surtout, la composition de ces flux a varié et s'est inversée. L'immigration européenne a été grand remplacée par l'immigration extra-européenne. En 2015, un immigrant sur 2 arrivé au Royaume-Uni venait de l'UE. En 2025, c'est moins d'un sur 10. Le nombre de demandeurs d'asile a lui explosé, plus 150% en 10 ans, et le nombre d'octrois a été multiplié par 5. Était-ce ce que souhaitaient les électeurs britanniques ? Qu'il nous soit permis d'en douter.
Et on entend dire que les Britanniques justement regrettent le Brexit. Est-ce le cas ?
Eh bien c'est ce que laisserait entendre un sondage paru ce mois. 57% des Britanniques jugent désormais que le Brexit serait une mauvaise décision, ce que certains observateurs appellent désormais le « Brexit ». Mais les choses ne sont pas si claires, car au même moment, le parti pro-Brexit, Reform UK de Nigel Farage, est en train de dynamiter le bipartisme britannique vieux d'un siècle et caracole en tête des intentions de vote pour les prochaines élections générales avec 27% des voix contre 19% pour le Labour et les conservateurs. Hier, dans une chronique pour Le Monde, un certain Aurélien Antoine, spécialiste du droit britannique, voyait, je cite, « dans le succès durable de ce qui soit à l'origine un insoutenable paradoxe ». Le succès continu de Farage ne pouvait qu'être le résultat, poursuivait-il non sans originalité, de la stigmatisation de boucs émissaires, les étrangers, de l'affaiblissement de la culture démocratique et de la puissance des milliardaires d'extrême droite. En fait, la contradiction qu'il pointe n'est qu'apparente. Les Britanniques rejettent le Brexit parce qu'il n'a pas été converti politiquement et plébiscitent Farage en ce qu'il leur semble le mieux à même de le réussir enfin. C'est le propre de toutes les transitions politiques qui suivent les décisions radicales. La Grande-Bretagne traverse une période de flottement, d'indécision, de convulsion. Au fond, c'est un chef avec une vision pour le prochain demi-siècle qui leur manque. Comme nous, les Britanniques attendent leur prochain grand homme.
Merci, mais ils ont encore un roi. Et c'est un Anglais. C'est pour ça que ça ne marche pas. Alors, revenons avec Grégoire Pupin, qui, je rappelle, l'excellent directeur du Centre européen pour le droit et la justice. Puisque l'euthanasie, ce texte affreux, effrayant, et qui peut nous faire changer civilisation. Les Ébèques, une civilisation qui vote l'euthanasie ne mérite pas de vivre. Eh bien, est en discussion au Parlement. Alors, cher Grégor, revenons un peu sur ce qui est les amendements qui sont votés, qui sont discutés. Donc, le délit d'entrave, vous nous l'avez dit, a été enlevé. En revanche, d'autres sont votés. Vous nous avez parlé d'un amendement qui était voté, un amendement proposé par une députée, je crois, du Rassemblement National, qui a été voté hier. De quel amendement s'agit-il ?
Voilà, c'est un amendement de Marie-France Leroux, excellente députée RN, qui, très active sur le sujet de l'euthanasie, a déposé de nombreux amendements avec différents députés de son groupe, notamment un amendement, bon, qui peut paraître un peu anecdotique, mais qui portait à l'article, l'alinéa 6 de l'article 2, et qui porte encore sur la définition des modalités de l'euthanasie, et qui prévoit simplement que l'euthanasie peut être pratiquée par un médecin ou une infirmière. Elle a proposé de supprimer la référence au médecin. Bon, et oui, c'est un amendement parmi des centaines ou des milliers. Et cet amendement a été adopté. Alors, j'allais dire par chance, mais ce n'est pas vraiment par chance, parce qu'il a été adopté à la reprise des débats. Il y a eu une pause pendant les débats. C'est le premier amendement qui a été examiné à la reprise. Et de fait, les députés de centre et de gauche n'étaient pas encore suffisamment revenus dans l'hémicycle, si bien qu'il s'est trouvé une majorité pour l'adopter. Donc c'est un peu un vote quand même de circonstance, mais qui résulte quand même du fait qu'il y a une opposition réelle à l'euthanasie dans l'hémicycle, et qu'il suffit finalement de peu de choses pour obtenir la majorité. Alors, bien sûr, le vote de cet amendement désorganise l'ensemble du texte, hein, parce que le texte est construit sur le principe que c'est le médecin qui organise tout. Mais si d'emblée on dit que c'est uniquement l'infirmière, et bien sûr, ça n'a plus de sens. Donc, le texte perd de son sens grâce à cet amendement de Mme Leroux, mais la présidente de l'Assemblée ou d'autres députés vont évidemment essayer d'obtenir un nouveau vote de la disposition pour réintroduire le médecin. Voilà, donc ça, c'est de la pratique parlementaire assez habituelle. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que dans l'ensemble, si on prend les deux chambres, Parlement et Assemblée nationale et Sénat, la majorité des parlementaires français sont opposés à l'euthanasie et au suicide assisté. Si on cumule sénateurs et parlementaires et députés de l'Assemblée, il y a une majorité opposée. Voilà. Simplement, le jeu des institutions fait que, pour l'instant, il y a encore une faible minorité à l'Assemblée nationale, et ça suffit pour rejeter tous les amendements. On en est là pour l'instant. Il faut continuer la mobilisation. Il y a encore des députés qui sont hésitants. Donc, la majorité se réduit et on n'est pas encore au vote final du 15 juillet.
Alors, on reçoit beaucoup de messages. Donc, chers auditeurs, vous pouvez continuer à nous écrire et poser vos questions. Je rappelle à courtoisie@rc.fr. Voici quelques messages et des questions. Les députés capables de voter de telles conditions d'euthanasie doivent être connus en tant qu'imbéciles profonds ou de pervers dangereux. Il me semble que refuser d'être leur complice en votant pour ces gens ou leur parti est un devoir moral. Mais vu que ces gens ont été capables de nous imposer dans tous les domaines, on ne peut s'étonner de rien de cette classe de psychopathes. IVG, euthanasie, les progressistes ne devraient pas oublier de remettre la peine de mort. Honte à eux, on respecte la vie, on aide ceux qui souffrent, ils se prennent pour des surhommes. Merci pour vos émissions. Merci, chère madame. Une question, qu'en est-il des pharmaciens ? Ont-ils une clause de conscience ? Un organisme de secours, s'ils sont contre cette implication forcée, existe-t-il ? L'abandon du délit d'entrave pourrait-il être ce secours ? Être forcé à agir contre sa conscience ne va-t-il pas contre la Constitution, contre la Déclaration des droits de l'homme ? Je vous laisse répondre, Grégor Pupinck.
Alors, très bonne question. Écoutez, la conscience, n'est-ce pas ? C'est très compliqué. Je vais pour plaisanter. dans un pays dans un pays où on fait des lois sur des sujets de morale, comme l'avortement, l'euthanasie, dans un pays où on légalise le meurtre de l'euthanasie, évidemment que ça pose des problèmes de conscience. Parce que la conscience des médecins, la conscience des pharmaciens est évidemment choquée par cela. Donc on ne peut que provoquer des problèmes de conscience. Et c'est bien la difficulté des prétendus promoteurs de la liberté de l'euthanasie. En fait, c'est que pour imposer cette liberté, ils sont obligés de forcer la conscience des pharmaciens, des médecins, des infirmières, des responsables d'établissement, etc. Alors, certes, le texte ne prévoit que une liberté de conscience pour les médecins, les infirmières, on va dire directement impliqués dans l'acte. Mais il exclut explicitement les pharmaciens. De même qu'il exclut les responsables d'établissement de santé, hospitaliers, médico-sociaux, y compris les établissements entièrement privés qui ne reçoivent aucun financement public. Ça veut dire que l'euthanasie doit pouvoir être pratiquée dans tout établissement médico-social, même totalement privé. Totalement privé. Là, il y a l'obligation, selon le texte, d'accepter la pratique de l'euthanasie. Donc, c'est vraiment une façon de forcer. Moi, je pense aux maisons d'accueil de personnes handicapées, catholiques, un peu partout, qui ne demandent rien à personne, qui font le bien. Et bien même eux, on va les chercher pour les obliger à pratiquer cela, à accueillir cette pratique. Alors, pour les pharmaciens, c'est pareil. On les oblige. La loi exclut explicitement les pharmaciens du bénéfice de la clause de conscience. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si un pharmacien délivre un poison pour pratiquer le suicide ou l'euthanasie, il va en prison. Donc aujourd'hui, si un pharmacien le fait, non seulement il viole son serment et sa déontologie, mais en plus il viole le droit pénal et il est condamné à une peine de prison. Demain, s'il ne le fait pas, il peut encore être condamné. Donc c'est vraiment un renversement complet, c'est quand même de la folie, on oblige les gens, les personnes qui font ce métier depuis des années, à changer totalement de morale. La loi les oblige, on va dire, à participer à un acte qu'ils peuvent légitimement considérer comme étant un crime, le fait de tuer quelqu'un d'autre. Le pharmacien participe directement. Il faut bien comprendre que le rôle du pharmacien n'est pas secondaire. Le pharmacien, il reçoit une demande de prescription pour telle ou telle personne. Alors on va lui dire, voilà, il faut faire une potion létale pour un homme, telle corpulence, tel âge, etc. Et il est entièrement engagé moralement par cet acte. Et là, comme les législateurs pro-euthanasie, en fait, ils ont peur de la conscience des gens. C'est pour ça qu'ils veulent la réduire. Et donc, ils veulent forcer les pharmaciens à le faire parce que leur rôle est précisément indispensable. Et aussi parce que si on reconnaissait une clause de conscience aux pharmaciens en matière d'euthanasie, on serait obligé de la leur reconnaître en matière d'avortement. Or, aujourd'hui, les trois quarts des avortements sont faits par voie médicamenteuse, donc par les pharmaciens, avec le concours des pharmaciens, et donc on est bloqué. De la même manière, pour contourner ou limiter la clause de conscience des médecins, la loi prévoit d'obliger les médecins à désigner un tiers. Donc si un médecin est objecteur, certes, il n'est pas tenu de le faire lui-même, mais on lui dit, cher monsieur, vous devez quand même indiquer un autre professionnel de santé qui accepterait de le faire. Donc, cette forme d'obligation de renvoi, évidemment, elle est faite pour limiter la portée de l'objection, mais en fait, elle est impossible ou très difficile à remplir, parce que comment pouvez-vous, lorsque vous êtes objecteur, d'abord vous rendre complice quand même de l'acte, en disant, moi je ne le fais pas, mais mon voisin le fera. D'abord, et ensuite, comment pouvez-vous préjuger de ce que sera la décision de votre confrère en disant, écoutez, moi je ne veux pas, mais lui, il acceptera certainement. Donc c'est pas réaliste, mais pour montrer vraiment que, en fait, quand on veut imposer ce genre de réforme profonde, enfin pas de réforme, de transformation de la morale, quand on veut changer la morale, et c'est bien le but de ce texte, comme c'était le but d'autres textes qui ont été adoptés ces dernières décennies, eh bien, le premier ennemi, ça devient la conscience, et c'est vraiment un signal d'alerte, en fait, quand on adopte des lois qui, sous couvert de liberté, répriment, en fait. Alors, le délit d'entrave, on en a parlé, mais aussi l'atteinte à la liberté de conscience, l'atteinte aux établissements, à la conscience, à la liberté des établissements confessionnels, des établissements privés. C'est vraiment une façon d'imposer une liberté au forceps pour changer la société, pour changer notre rapport à la vie, à la mort, à la liberté. Donc c'est vraiment un signal d'alerte. Tout ça sous couvert de liberté. Alors je veux bien reconnaître qu'il y a des vraies questions qui se posent sur la fin de vie, sur l'âge, sur la maladie, mais on a le choix entre les soins palliatifs qui sont le véritable soin apporté aux personnes et puis cette espèce de machinerie en fait, qu'on met en place pour simplement gérer l'afflux considérable qu'on va avoir de personnes âgées dans ces prochaines décennies et pour faciliter la gestion rationnelle par la société de ce changement de la population.
Un conseil, si la loi est votée et que vous pointez une pharmacie, vérifiez avant de gommer votre Doliprane que le pharmacien ne s'est pas gouré de tiroir en vous servant. Emmanuel Rechberg a une question.
Bien souvent, derrière les belles idées de gauche, il est question de beaucoup d'argent. Et donc j'avais deux questions un peu raides à vous poser. La première, c'est est-ce que cette euthanasie va être remboursée par la Sécurité sociale ? Et deuxième point, les mutuelles, les grandes mutuelles, enfin certaines grandes mutuelles ont beaucoup poussé et sponsorisé le lobbying en faveur de l'euthanasie. Est-ce qu'on a quelque part, aurait-il réalisé une étude des gains espérés grâce à cette mesure pour ces grandes mutuelles ?
Alors, j'ai pas vu d'étude précise sur les gains. J'ai vu quelques chiffres passer sur les économies pour le système de santé, bon, qui sont, j'ai plus le chiffre en tête, mais qui sont considérables si on prend la quantité de population qui va être concernée. Vous avez pour les euthanasies ou les suicides assistés déclarés, hein, les proportions en Belgique ou au Canada, c'est entre 5 et 10 % des morts. Ça veut dire que je parle que des procédures déclarées. Il y en a qui ne sont pas déclarés. Ça veut dire que vous pouvez abréger la vie de peut-être bientôt 10 % de la population. Lorsqu'on en a parlé, les promoteurs de l'euthanasie disaient « mais oui, très bien, et pourquoi pas plus ?» Pour eux, c'est un progrès. Plus il y a de personnes qui ont recours à l'euthanasie ou au suicide, mieux c'est pour eux parce que c'est leur idéologie. Et donc, si vous abrégez de plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, la fin de vie, qui est la période la plus coûteuse pour les comptes de la sécurité sociale et les mutuelles de notre existence, c'est évident que les économies vont être considérables. Donc, il y a un intérêt financier qui est majeur. C'est l'un des arguments. Oui, ce sera remboursé par la sécurité sociale, c'est considéré comme un soin. C'est considéré comme une mort naturelle, ce qui est quand même aussi une vraie question pour les assureurs. Hein, si vous avez un contrat d'assurance vie et qu'ensuite vous demandez l'euthanasie ou le suicide assisté, bon, il faudra voir comment les assureurs vont modifier leur contrat. Ensuite, sur les questions des mutuelles, alors là, je pense que c'est pareil, il y a la multiplicité des motivations. Si on reprend l'histoire de la DMD, l'un des fondateurs, Pierre Simon, donc le grand maître de la formation en France, de la Grande Loge, lorsqu'il a fondé la DMD, il s'est appuyé sur les réseaux francs-maçons, et en particulier, il a obtenu le soutien de certains mouvements mutualistes qui sont eux-mêmes liés à la franc-maçonnerie. Donc il y a une proximité idéologique, on va dire, entre certains mouvements mutualistes et les promoteurs de l'euthanasie au début. Donc une forme de relation historique réelle entre ces mutuelles et les mouvements. Et ensuite, il y a bien sûr, l'un n'exclut pas l'autre, un intérêt financier.
Rémi Carlu.
Oui, la question de la conscience dont vous avez parlé est cruciale, puisqu'elle pose la question de l'avis des acteurs principaux de l'euthanasie, qui seront le personnel soignant. Sait-on, donc depuis le début des discussions sur le texte de loi, il y a eu plusieurs tribunes de médecins, d'infirmiers, etc. Sait-on aujourd'hui quel est l'avis majoritaire au sein des différents corps médicaux qui seront impliqués dans l'acte ? Et surtout, à quel point sont-ils intervenus et interviennent-ils encore aujourd'hui au cours du processus législatif pour faire pression sur les députés ?
Alors, disons que je n'ai pas connaissance de sondages hein, qui disent précisément le rapport de force. Si on prend plutôt les instances représentatives, très clairement, les instances représentatives se sont déclarées à plusieurs reprises contre l'euthanasie au niveau international, très clairement. Pour les pharmaciens, par contre, c'était beaucoup plus mitigé. Alors, il y a des associations de pharmaciens qui se sont mises en place pour demander le respect de la clause de conscience. Donc, il y a une mobilisation. Je pense que pour les promoteurs de l'euthanasie, ils regardent ce qui se passe dans les autres pays, en Belgique ou en Espagne ou en Suisse. C'est dans la durée, c'est l'un des aspects les plus difficiles à gérer. On le voit par comparaison avec l'avortement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'objecteurs à l'avortement parmi les médecins, les gynécologues. Et ce ne sont pas des gens qui sont spécialement religieux. Simplement, c'est des gens qui ne sont pas entrés dans ce métier pour faire ça. Et donc, la conscience, l'opposition de conscience, en fait, elle ne s'use pas, étonnamment. Les gens ne s'habituent pas, les médecins ne s'habituent pas. Donc, on peut penser qu'il en sera de même en France sur l'euthanasie. En Suisse, le législateur a fait le choix de confier le suicide assisté, non pas à des médecins, mais à des associations volontaires. Voilà, donc ça aurait été une autre option de démédicaliser l'euthanasie en disant c'est pas un soin, c'est pas un acte médical. Donc si des gens veulent pratiquer l'aide au suicide, qu'ils le fassent, mais à titre non médical. En France, avec notre conception très étatiste, on a voulu tout intégrer dans le système médical hospitalier public en particulier. Et donc c'est un système qui est plus contraignant. Mais c'est difficile de répondre à votre question sur la réalité de l'opposition du corps médical. Il y a beaucoup de médecins qui refusent énormément, mais vous dire s'ils sont majoritaires, je ne pourrais pas vous le dire.
Emmanuel Reichberg.
Oui, encore une question matérialiste. Donc l'euthanasie, ça consiste à se faire injecter un poison, ce qui veut dire que quelqu'un doit le fabriquer, ce poison. Oui. Le produire en grande série, etc. Est-ce qu'on sait qui aujourd'hui, s'il y a des entreprises qui se sont positionnées sur ce marché, si elles communiquent ou pas?
C'est ça. Alors, on a fait à l'ECJ, vous pouvez voir sur le site de l'ECJ, on a fait une étude sur les produits, les poisons, quoi. Alors les poisons, effectivement, ils sont produits, ils sont pas très chers d'après ce qu'on a pu voir. C'est les pharmaciens qui doivent les concocter et les assembler. Donc je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un intérêt financier majeur de la part des producteurs. Ce qu'on peut souligner par contre, c'est que la loi ne dit, enfin les parlementaires en fait se sont pas intéressés à la question du comment. Et ça, c'est assez étrange. C'est vraiment un élément dont personne ne parle. C'est comment est-ce que ça se passe une euthanasie. D'ailleurs, on reste sur les grandes idées de la liberté, etc. Et puis le texte est complètement silencieux. Il dit, ce sera au choix du médecin, après consultation de la personne. Et la personne elle-même n'est informée des modalités de mort qu'après avoir confirmé sa décision de mourir. Vous voyez, donc c'est vraiment complètement repoussé à la fin la procédure.
En fait, pardon.
Oui, or, c'est très différent. Enfin, il y a les méthodes d'euthanasie, que ce soit par injection ou par breuvage, ont des effets différents. Il y a des risques liés à la pratique de l'euthanasie, en particulier lorsque l'on absorbe un poison. Il y a un taux d'échec, il y a des complications. Et donc tout cet aspect sur le comment de l'euthanasie, et en particulier sur les complications, n'est pas du tout abordé par le législateur.
Et ça, c'est sans doute un angle mort qui pourrait permettre de continuer la bataille même après le vote de la loi. Je me rappelle d'un article sorti dans l'Incorrect, où on s'était rendu compte, dans l'Incorrect, dans un numéro spécial dédié à l'avortement, où on s'était rendu compte que la Sécurité sociale violait son propre règlement pour pouvoir vendre des médicaments. Normalement, lorsque la Sécurité sociale rembourse un médicament, il faut au moins deux producteurs de ce médicament. Il faut une concurrence. Et pour l'avortement médicamenteux, la Sécurité sociale a monté une fausse concurrence. Il y a deux médicaments qui sont produits à la fin par la même société. Ce qui n'est pas bien.
Tiens.
Pas légal.
Effectivement, non, c'est un vrai point, mais j'assiste auprès des auditeurs. L'euthanasie n'est pas, c'est, on peut dire, dépourvu de risque. Et évidemment, on estime que mourir n'est pas un risque, puisque mourir est le but. Donc, dans ce cas-là, le risque, voyez-vous, c'est de survivre à l'euthanasie.
Ou de souffrir.
Donc, oui.
Ou d'avoir des séquelles.
Il y a des séquelles, il y a des souffrances, il y a la question de l'état de conscience de la personne, la question de la suffocation. Parce que on peut, enfin, regardez sur le site de l'ECHJ tout un article qui a été rédigé par des pharmaciens, extrêmement instructif. Il y aurait 15% de complications, un taux de 15% de complications pour les euthanasies, en particulier par breuvage, par absorption de poison. Et c'est donc c'est aussi tout un aspect de du texte qui du débat qui est très pratique, très réaliste. Qui est exprimé, le législateur renvoie ensuite au gouvernement pour décider par décret, par la suite, des modalités de la mort.
Je rappelle que je crois que c'était en Belgique, le produit n'avait pas très bien marché, ils avaient fini au coussin par étouffement la personne qui avait demandé à être euthanasiée, ce qui en a fait un très grand progrès. J'ai juste une dernière question très rapidement, est-ce que les mineurs sont concernés? Est-ce que les personnes atteintes d'Alzheimer sont concernées? Est-ce que les personnes atteintes d'un handicap mental sont concernées?
Alors pour l'instant les mineurs ne sont pas concernés, mais dans le fond il n'y a aucune raison pour qu'à terme ils ne le soient pas. Dans tous les pays où les mineurs au départ ont été exclus, comme la Belgique, et eh bien ensuite, le texte a progressivement étendu l'accès aux mineurs. De même, là, aujourd'hui, c'est réservé aux personnes de nationalité française, ou résidents en France de façon permanente ou régulière. Il n'y a aucune raison de limiter cela à ces personnes-là.
Ce serait une discrimination.
Exactement. Si c'est une liberté, voyez-vous, tout le monde doit pouvoir en bénéficier.
L'euthanasie pour les sans-papiers. C'est une belle revendication de l'éléphiste.
Voilà, exactement, la liberté de... Exactement. Et ensuite, les personnes atteintes de handicap, eh bien oui, dans une certaine mesure, dès lors en fait que ces gens sont considérés comme étant quand même capables d'exprimer leur volonté, et bien sûr, donc je dirais surtout les personnes qui ont une maladie dégénérative, dès lors qu'on estime qu'ils sont encore capables d'exprimer une volonté, ils ont accès à l'euthanasie. Même les personnes protégées, ça veut dire sous tutelle ou curatelle, peuvent demander ou peuvent être euthanasiées si le médecin soutient qu'elles en ont fait la demande et après avoir simplement informé la personne qui est en charge de sa protection de la personne concernée. Donc c'est extrêmement... C'est extrêmement large et la question de la capacité à consentir n'est pas du tout précise. C'est le médecin qui juge lui-même si la personne est capable d'exprimer sa volonté de façon suffisamment forte. Voilà, c'est lui qui est juge. Et ça, c'est très grave parce que pour une question aussi importante, laisser à un seul médecin ce pouvoir sur la vie des tiers, sur la vie de nos proches, c'est un pouvoir exorbitant et nous priver, nous, de la faculté de contester cette décision en justice, c'est vraiment, ça viole vraiment tous nos droits. Donc c'est extrêmement grave. Si ce texte est voté en l'état et si le Conseil constitutionnel le laisse ainsi, nous aurons des drames familiaux dans les années qui vont venir, comme on en a connu en Belgique ou en Espagne.
Vous êtes très très nombreux à nous écrire, malheureusement on ne peut pas lire tous vos messages. Un dernier message, un auditeur demande une liste des mutuelles pro-euthanasie afin de les quitter. Est-ce qu'on peut trouver les quelques mutuelles qui militent pour l'euthanasie afin que leurs adhérents leur écrivent ou les quittent?
C'est une bonne idée, nous allons nous atteler à cette liste.
Voilà, les listes rappellent des heures sombres, mais parfois, pour lutter contre la mort, ça peut être utile. En tout cas, merci beaucoup Grégor Pupin, vous l'aurez compris, chers auditeurs, le combat n'est pas fini, battez-vous jusqu'à la fin, que vous gagnez ou vous perdiez. Si vous battez comme un lion et sans jamais rien lâcher, un ascenseur vous attendra le jour de votre mort naturelle pour vous emmener au paradis, et sachez qu'au paradis, les saucissons poussent dans les arbres et les fontaines à champagne sont à volonté. Grégor Pupin, merci infiniment.
Merci à vous.
On continue à suivre cette affaire et on ne manquera pas évidemment de vous rappeler pour connaître l'évolution de cette loi et en croisant les doigts et en priant très fort et en combattant afin qu'elle ne passe jamais. Chers auditeurs, vous parlez d'euthanasie, vous parlez de l'association d'aide à mourir dans la dignité. Eh bien, nous avons quelques révélations à vous faire sur ce qu'ils aimeraient surtout pas que vous sachiez et sur d'autres associations qui utilisent les dons défiscalisés pour promouvoir leurs horreurs. Ça, c'est leur droit, mais pas toujours de manière très légale. Donc, dans quelques minutes, on se retrouve pour des révélations explosives. Dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, le journaliste Rodolphe Carte nous a rejoint. Rodolphe, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, qu'avec Radio Courtoisie, l'incorrect, Logim et Boulevard Voltaire, vous avez mené, vous, Emmanuel Rechberg, Rodolphe et bien d'autres, une enquête, une contre-enquête d'ampleur sur l'écosystème associatif de gauche. Alors, je rappelle, en tout cas l'associatif qui n'est pas de droite, je rappelle l'origine. Libération, qui a toujours des bonnes idées, a fait sa une en avril sur les associations dites de droite et d'extrême droite, le pire même de l'extrême droite, ont-ils titré, c'est vous dire, c'est vraiment très grave, ces associations très très méchantes qui, je cite, défiscalisent en toute impunité. Je cite encore, un dispositif légal de défiscalisation des dons qui aident financièrement les associations soi-disant d'intérêt général, malgré une opacité quasi généralisée, des millions d'euros financent chaque année une mouvance raciste et violente. Il faut vraiment arrêter ces associations. Donc on s'est dit, bonne idée, mais qu'est-ce qui se passe du côté de ceux qui ne sont pas de gauche ou d'extrême gauche? Qu'en est-il? Ou ceux qui ne sont pas de droite plutôt? Tous ces journalistes, donc de l'Incorrect, de Radio Courtoisie, de Logim et de Boulevard Voltaire, ont décidé d'ouvrir la boîte et de la vider. Et donc, pendant de longues semaines, nous avons étudié, analysé plus de 200 associations, on les a passées au crible, et le résultat est cinglant. Une cinquantaine, au moins, repose sur, sinon un équilibre juridique fragile, pourrait dire carrément intenable pour la plupart, et franchement, douteuse pour toutes. Donc, commençons. Vous avez, rappelez-vous, chers auditeurs, à ce même micro, à cette même table lundi dernier, Pierre-Alexandre Bouclet avait présenté ce lancement de cette longue contre-enquête qui va durer encore quelques semaines avec l'Institut de la Boétie. On va revenir sur l'Institut de la Boétie qui, je rappelle, est le think tank, on va dire, le laboratoire d'idées, ou comme on dit en bon français, de la France insoumise. On va revenir avec Rodolphe sur l'Institut La Boétie. Mais Emmanuel, vous, donc vous êtes celui qui avait analysé le plus d'associations. Il faut dire que c'est un peu votre dada, hein, parce que vous, puisque dans l'Incorrect, vous avez réalisé un sacré paquet d'enquêtes. Et puis que vous avez aussi publié cette petite pépite, Le vrai coup du progressisme, édité chez L'Artilleur, que vous pouvez trouver encore dans les bonnes librairies. Et puis sinon en ligne sur Amazon et autres, comme il fait chaud, que la canicule vous empêche de travailler, vous le commandez, vous le lirez, vous allez voir combien coûte la gauche à la France chaque année, et ça vaut un paquet d'oseille. Donc expliquez-nous un peu l'état des lieux, déjà peut-être le reçu fiscal, peut-être expliquer un peu le concept, comment ça fonctionne, ce mécanisme des dons défiscalisés.
Alors le principe est que l'État autorise des associations lorsqu'elles sont d'intérêt général, et c'est là le sujet, et qu'elle reçoit un don, d'envoyer par retour un reçu à la personne qui a donné, et ce reçu permet à la personne de diminuer ses impôts d'un montant de 66 à parfois dans certains cas 75% du don qu'ils ont donné. Bon, ça c'est la règle de base. Mais pour ça, il faut être d'intérêt général. L'intérêt général, c'est simple, c'est autodéclaratif. C'est-à-dire, quand vous créez une association, si vous considérez que vous êtes d'intérêt général, vous écrivez, vous dites « je suis d'intérêt général ». Bien. Quand vous faites ça, vous prenez un risque parce que si le fisc n'est pas d'accord avec vous, il y a des sanctions qui peuvent arriver en face. Pour être d'intérêt général, il y a 5 critères, je ne vais pas rentrer dedans, mais certains sont très binaires, oui, non, typiquement, est-ce que votre gestion est désintéressée ? Ou est-ce que la direction de la société est payée grassement ? Donc ça, c'est binaire, c'est simple. Ça. Et puis, il y en a qui sont un peu plus compliqués, et donc les gens, ils jouent un peu sur ces frontières, ils sont un peu dans le gris. Et donc, nous avons fait appel à des avocats spécialistes des associations, des fonds de dotation, de tous ces trucs-là, pour qu'ils nous donnent leur avis. Et je dois dire que à la fin, ça ressemblait un peu à la fête au village. Donc, sur les presque 300 associations qui ont été screenées, c'est plus de 200, c'est 300.
300 associations.
Il y en a 55 où on s'est dit, oula, là, il y a des sujets. Alors, il y en a pour tous les goûts. Un coup, c'est le directeur qui est payé grassement. Un coup... Alors, très peu de gens publient leur compte, parce que pourquoi faire hein, comme, en plus, ils ne sont pas contrôlés, ils ne payent pas les amendes. Un coup, c'est le côté non lucratif qui est vraiment...
douteux.
Qui est vraiment douteux, parce qu'il y a certaines qui ont un chiffre d'affaires... Enfin, économique nettement supérieur à ce qu'il devrait faire. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est ce qu'on appelle le cercle qui est concerné par l'association n'est pas restreint. Mmh. Enfin, si au contraire, il est très, très restreint.
Alors qu'il ne devrait pas l'être. Il peut enlever que le principe, c'est l'intérêt général. C'est donc, si vous êtes dans un cercle restreint, l'intérêt général, un peu compliqué à justifier.
C'est ça. Et donc, pour qu'on comprenne un peu de combien on parle, dans le dernier projet de loi de finances 2025, c'était le montant... des reçus fiscaux s'élevaient à 3,7 milliards. Et donc l'État perd 3,7 milliards
de recettes.
Alors, ce n'est pas toutes les associations de gauche, et ces associations de gauche ne font pas ensemble 3,7 milliards. Mais elles sont largement au-dessus de 100 millions par an. Très, très largement. Quand on additionne les 55, ça va assez vite.
D'accord, on est à plus de 100 millions sur ces associations concernées.
Progressistes, oui.
Progressistes, militantes, et la structure juridique...
Ouais.
Un peu douteuse.
Soit douteuse, soit celle qu'on retrouve le plus souvent, c'est que ce sont des associations qui sont militantes. Mmh. Et donc, elles ont une activité de plaidoyer, notamment. Et ces activités de plaidoyer, c'est ni plus ni moins que du lobbying. Par exemple, la DMD, c'est un lobbying. C'est un lobbyiste pur et dur.
On va revenir sur la DMD dans le détail, évidemment.
Mais on peut parler de Greenpeace, on peut parler d'Oxfam, on peut parler de plein de sociétés, d'ONG ou d'associations comme ça, qui sont des partis politiques déguisés et dont on peut questionner, on ne peut pas affirmer, nous on est journalistes, mais on peut questionner quand même le fait qu'ils soient éligibles à l'intérêt général.
Étant donné que la justice paraît manque de moyens et que sous la canicule, ils travaillent encore moins bien, on va aider... La justice à faire le travail. Alors, je rappelle, donc, cette enquête a été lancée lundi avec donc, Radio Courtoisie, Logim, Boulevard Voltaire et donc, le magazine L'Incorrect. Radio Courtoisie a lancé la première salve avec l'Institut La Boétie, un article signé par Rodolphe Carte, une enquête, une grande enquête. D'ailleurs, je rappelle et je vous informe, si vous ne le savez pas encore, que le député Rassemblement National, qui siège à la commission des finances, Mathias Renault, a saisi le ministre David Agnel pour, à la suite de cette enquête, pour savoir si l'Institut La Boétie était dans les clous ou pas, et il émet de sérieux doutes. On va en parler évidemment dans le détail. Il y a d'autres enquêtes qui sont sorties également, signées par l'excellente Judith Solveig. L'Incorrect a sorti sa première enquête aujourd'hui sur l'aide à mourir dans la dignité. Et puis nous allons, donc l'Incorrect, sortir une enquête par jour, au moins jusqu'au 10 juillet. Et puis, si vous en voulez d'autres, eh ben, on nous en filera d'autres. Parce qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi manger, et puis surtout, il y a de l'oseille à récupérer. Étant donné que non seulement la France se porte dans un sale état à cause d'eux, mais en plus, ils se gavent sur notre dos. Bref, Rodolphe, l'Institut La Boétie, est-ce que vous pouvez nous représenter ce que c'est cet institut, les liens avec notamment la France insoumise de ce cher Jean-Luc Mélenchon?
Oui, alors la France, enfin en tout cas l'Institut de la Boétie, c'est un fonds de dotation. Donc on a bien mentionné à quel point la notion d'intérêt général était importante. Et peut-être aussi rappeler, avant d'introduire l'Institut de la Boétie, que j'ai envie de dire les laboratoires d'idées, on en connaît, et qui sont plus ou moins liés déjà à des partis politiques. On connaît la Fondation Jean Jaurès, par exemple, qui est plutôt proche du Parti Socialiste, la Fondapol, plutôt à droite, ou même la Fondation Gabriel Péri, qui elle est plutôt proche du Parti communiste. Mais là, pour le coup, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que même les personnes qui participent à l'Institut de la Boétie ont directement mentionné, j'ai envie de dire, une influence directe ou un lien direct avec la France insoumise. Et par exemple, Antoine Salles, Papou, qui est le responsable de l'école de formation, disait tout simplement, on assume totalement d'être dans le combat politique et de faire partie de la galaxie insoumise. Donc là, vous voyez que même, ils en ont fait la publicité. Mmh. Mais ce qui est intéressant avec l'Institut de la Boétie, parce qu'on m'a déjà repris.
Oui, on dit pas l'Institut de la Boétie, mais l'Institut de la Boétie. Déjà qu'ils ont chopé un nom qui nous allait bien, mais en plus ils récupèrent la particule avec, ça va pas le faire. Ils ont coupé les têtes, on leur enlève la particule.
Exactement. Et donc l'Institut de la Boétie est proche de la France insoumise, comme on a essayé de le démontrer à travers cette enquête, mais il est même, j'ai envie de dire, proche aussi de l'héritage vraiment de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on a vu à travers l'Institut de la Boétie qu'il y avait même des liens avec le parti de gauche, et d'ailleurs c'est des enquêtes qui ont été même menées, j'ai envie de dire, par des médias plutôt à gauche comme Mediapart ou Marianne. Il faut mentionner que l'Institut de la Boétie, c'est quand même 500 mètres carrés avec une terrasse en face de la gare du Nord. La gare du Nord, c'est peut-être pas, on va dire, les arrondissements les plus prisés à Paris, mais tout de même c'est quand même un bien immobilier qui avait été acheté à l'époque par une société civile immobilière, une SCI, à 2,3 millions d'euros. Donc on est quand même dans un bien immobilier.
Ce qui appartenait au parti de gauche, qui était l'ancien parti politique de Jean-Luc Mélenchon.
Voilà, quand Jean-Luc Mélenchon a quitté le Parti Socialiste en 2008, il a fondé le Parti de Gauche. Et ensuite, il a laissé, j'ai envie de dire, la gérance du Parti de Gauche en 2014, avant de fonder la France Insoumise en 2016. En revanche, comment justement ces bâtiments ont pu se retrouver dans l'escarcelle de la France insoumise? Là, c'est le premier lien qui pose un peu question. Si vous voulez, Jean-Luc Mélenchon, une fois qu'il a fondé la France insoumise, le parti de gauche qui devait rembourser un prêt, 16 000 euros quand même, pour rembourser le prêt immobilier qu'ils avaient fait pour acheter le bâtiment, bah justement, ils ont aspiré une partie des dons et des militants. Le parti de gauche s'est retrouvé sans militants. Donc pendant un certain nombre d'années, la France insoumise a renfloué les caisses du parti de gauche pour justement récupérer une partie du prêt. Et en 2022, on arrive à une date fatidique où on a tout simplement un don sans contrepartie du bien à la France insoumise. Et donc vous avez 20 rue d'Hauteville, ce bâtiment qui passe dans l'escarcelle de la France insoumise. Et à l'époque, au parti de gauche, ça a fait un peu crier, parce que des militants qui avaient continué à militer au parti de gauche, bah justement, disaient, bah nous, on a cotisé pendant des années pour le parti de gauche, et là, on a un don à la France insoumise. Mmh. Même s'il y a bien évidemment un lien entre les deux, on peut quand même se poser des questions de ce transfert. Et ensuite, le côté politique au sein de l'Institut de la Boétie, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, là il est tout bonnement, j'ai envie de dire, établi à travers des maisons d'édition. Ça, c'est important, on voit à quel point justement la nébuleuse et l'écosystème de gauche est à chaque fois assez complet, parce que vous avez l'Institut La Boétie, donc ce centre de formation pour futurs cadres de la France Insoumise, le parti de la France Insoumise avec des personnalités. Il faut quand même rappeler que à la gérance de l'Institut de la Boétie, on retrouve deux présidents, Clémence Guettet, en charge du programme de la France Insoumise, et Jean-Luc Mélenchon. Mentionnez aussi que le premier président avait été Bernard Pignerol, quelqu'un qui est décédé aujourd'hui, mais par contre qui avait été un long compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon, qui l'avait accompagné lors de la fondation du Parti de Gauche. Et ensuite, on voit un peu à travers cet organigramme justement de l'Institut de la Boétie qu'il y a une surreprésentation, mais c'est même pas une surreprésentation, on retrouve quasiment à tous les échelons importants une personnalité de la France insoumise. Pour faire très rapide, l'Institut de la Boétie est constitué de divers segments, par exemple, qui vont traiter des sujets de la géographie, de la sociologie, de l'histoire, etc., etc. Et à chaque fois, vous retrouvez des personnalités de la France insoumise ou des députés comme Aurélien Taché, qu'on connaît bien. Et ensuite, vous avez un comité scientifique, là on est un peu dans les sages intellectuels, et vous retrouvez des personnalités comme Madame Annie Ernaux, qu'on a aussi retrouvé lors du dernier meeting à Saint-Denis, affublée d'un kéfier. On retrouve des personnalités aussi comme Ignacio Ramonet. Là, c'est une personnalité un peu moins connue, mais qui est quand même tout de même intéressante. Ignacio Ramonet, ça a été la tête de pont. C'est un journaliste emblématique du monde diplomatique, mais ça a été véritablement la tête de pont entre le régime chaviste et les partis en Europe et les partis européens, et notamment la gauche européenne. Et vous savez, au début des années 2000 et à la fin des années 2000, c'est lui qui va permettre cette connexion de Jean-Luc Mélenchon avec le Venezuela et la révolution bolivarienne. Alors, on a eu de récentes enquêtes, notamment de Frédéric Martel, Occident avec un S, qui a sorti
dans
ce
son livre.
Livre
Occident,
voilà, et qui est revenu sur les liens. Alors, des liens financiers. Il met un point d'interrogation, mais on sait qu'il y a eu des liens plus ou moins avérés, en tout cas avec la révolution bolivarienne et par exemple des partis politiques comme Podemos en Espagne ou même Syriza en Grèce. Mmh. Il y a une interrogation avec la France insoumise. Là-dessus, il faut aller se référer peut-être au livre de Frédéric Martel.
Oui, qui est très détaillé, qui, même s'il met un point d'interrogation, on peut pas... Sur certaines lignes, on peut enlever le point d'interrogation.
Bah, en tout cas, l'affiliation idéologique avec le chavisme,
oui, ça c'est sûr.
On peut la retrouver.
Sur financièrement, il y a des lignes où il y a un point et pas de point d'interrogation.
Oui, là-dessus. et là, par contre, par exemple, lors de la mort de Hugo Chavez, les drapeaux étaient en berne au parti de Jean-Luc Mélenchon.
Bien sûr.
C'est quand même quelques indications.
Et ils ont fait une manifestation pour libérer Maduro lorsqu'il s'est fait enlever par les forces américaines.
Voilà, exactement. Et pour finir un peu pour cette présentation rapide, on retrouve aussi dans le comité scientifique Françoise Vergès, militante décoloniale bien connue, qui est liée au Parti des Indigènes de la République et qui est une sociologue et qui vit très bien dans les beaux salons parisiens, mais qui se permet justement de revenir à chaque fois sur l'histoire, on va dire, coloniale de la France.
Alors, donc là, on a l'Institut de la Boétie, on a vu un peu idéologiquement, c'est tout ce que la gauche fait de mieux, d'agréable et de plaisant si vous voulez vivre dans un pays sain, libéral, où le vivre ensemble marche à fond la caisse. Financièrement, on voit qu'il y a des liens, comme l'a démontré Frédéric Martel, un peu étranges. On voit qu'il y a toujours Papy Mélenchon qui est à la tête de la structure. Mais alors, vous nous avez parlé d'une librairie aussi qui est adjointe à l'Institut La Boétie.
Oui, il y a deux librairies qui sont à mentionner en lien avec l'Institut de la Boétie et même les autres membres de la France Insoumise. Le premier, c'est les éditions 2031. Par exemple, vous avez le responsable de l'école de formation, Antoine Salpapou, qui nous a très gentiment
répondu.
D'ailleurs, qui a été édité aux éditions 2031. C'est des éditions, je pense, que vous connaissez absolument pas. À gauche, on connaît les éditions de La Découverte, par exemple, ou même de La Fabrique, édition d'Ouria Boutelja. Et par contre, on lit donc dans un article du Canard Enchaîné que la fille de Jean-Luc Mélenchon travaille dans ces éditions et même qu'elle est en charge des élus insoumis. Donc là, vous voyez certains liens. Ensuite, on a par exemple Manuel Ménal, qui est le secrétaire général, qui a sorti un livre pour un nouveau communalisme aux éditions Amsterdam. Les éditions Amsterdam, c'est des éditions de gauche un petit peu plus connues. Et je ne l'avais pas mentionné, mais il fait partie du comité scientifique. Le directeur, il s'appelle Nicolas Vieille-Caz, qu'il me pardonne si j'écorche un peu son nom, mais il est le directeur des éditions Amsterdam.
Vieille-Caz, Salpapou, ils ont quand même des noms qui peuvent prêter à sourire.
Mais donc, c'est quand même vraiment intéressant de voir qu'il y a vraiment une continuité. Et même, par exemple, j'ai pas encore mentionné les invités, parce qu'il y a toute une liste aussi d'invités sulfureux, dont par exemple Raphaël Arnaud, bien connu. Et par exemple, Raphaël Arnaud, il avait fait une table ronde avec Mathieu Mollard, directeur de rédaction exactement de Street Press. Et par exemple, ont été aussi invités à l'Institut de la Boétie Hugo Paletta. Hugo Paletta, c'est quelqu'un qui est bien connu sur l'observation dite de l'extrême droite à gauche, et on en a entendu un petit peu parler, parce qu'il a souvent été invité en tant que spécialiste des extrêmes au moment de l'affaire Quentin Doranque. D'ailleurs, vous en souvenez, le service public a quand même largement penché d'un côté de la balance, parce qu'à chaque fois qu'ils invitaient des spécialistes des violences politiques, on se rendait compte qu'il y a 2 ans, ils avaient fait les universités de la France insoumise, etc., etc. Et je vous le donne en mille, Ugo Paletta a participé au premier livre de l'Institut de la Boétie qui sort des livres aux éditions Amsterdam. Mmh. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment une galaxie qui marche très bien. On pourrait même revenir sur les liens entre les structures, l'ère du peuple, les œillets rouges, le parti de gauche et la France insoumise. Mais on voit à chaque fois les mêmes noms qui reviennent tout le temps. Et on sent qu'il y a vraiment une petite aristocratie au sein de la gauche qui se partage les bons plans, j'ai envie de dire, qu'ils soient éditoriaux, idéologiques ou politiques.
Alors c'est là où intervient les questions qu'on pose. Alors ils ont répondu en disant, ils ont fait un long message en expliquant qu'ils rentraient dans les clous parce qu'ils faisaient tel et tel sujet, en gros ils faisaient la liste de tous les sujets dont on peut traiter en formation politique, et on disait on est comme la Fondation Jean Jaurès ou comme la Fondapol. Mais justement la différence de la Fondapol ou de la Fondation Jean Jaurès, on voit par l'excellente enquête et les informations que vous nous donnez, que vous révélez, que en fait, finalement, c'est les mêmes personnes qui passent d'un strapontin à un autre strapontin, mais surtout qui bossent exclusivement pour un seul parti politique.
Bah là, pour le coup, je pense même qu'il faut prendre un peu de hauteur et voir sur le long terme. La France insoumise, je pense, a une volonté. D'ailleurs, vous en souvenez, c'était un aparté qu'avait donné Éric Zemmour lors de son livre d'après-campagne. Il avait expliqué que justement, le débat qu'on avait connu sur BFM, c'était en 2021. Mmh. Il avait été organisé par les deux protagonistes, donc Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, pour réorganiser quelque part ou tenter de reconfigurer la vie politique pour qu'on retombe sur un affrontement bloc de gauche, bloc de droite, où l'un et l'autre auraient été un peu les incarnations, qu'on sorte quelque part du duel
Marine Le Pen,
exactement, merci, et Emmanuel Macron. Et donc là, on voit vraiment la volonté à travers l'Institut de la Boétie, de la France Insoumise, de mettre la main vraiment sur la production des idées à gauche, de devenir le pôle référent et de renvoyer dans les cordes, bah, que ce soit le Parti Socialiste qui a lancé, je crois en plus, un nouveau think tank, ça a été d'ailleurs un peu un camouflet, enfin, ça n'a absolument pas provoqué en tout cas d'enthousiasme. Mais je pense
ça a tellement bien marché qu'on ne connaît même plus le nom.
Voilà, exactement. Bah, j'ai essayé de me le... Mais je me sens vu. Non, je m'en souviens absolument pas.
Laissez tomber, personne ne s'en rappelle.
Mais oui, on voit à travers, et d'ailleurs à travers même divers articles qu'on peut retrouver dans des journaux de gauche, on voit qu'à chaque fois, il y a une partie des intellectuels qui sont toujours un peu dérangés, parce qu'ils sentent qu'il y a quand même une volonté de mainmise. Et j'ai même envie de dire qu'il y a, comment dire, pas une malversation de la production universitaire, mais par exemple, quand on voit la trajectoire que suit une personnalité comme Yohann Chapoutot, qui était il y a des années quand même une personnalité référence sur les travaux concernant le national-socialisme et le Troisième Reich, on voit que là, il y a vraiment un côté militant chez Yohann Chapoutot qui est en train quand même d'évoluer. Parce que la galaxie de la France insoumise, il y a cet institut de la Boétie qui est un centre de formation pour militants, parce que ça, c'est un des autres aspects. Il y a le côté conférence et il y a aussi le côté formation.
Il y a le côté labo d'idées. Et à côté formation,
oui,
le cadre.
Parce que là, quelque part, l'Institut de la Boétie, c'est quelque chose qui devait arriver par une certaine dynamique. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, a des parlementaires, a des députés. Il faut produire des élites, quelque part, pour le parti. C'est somme toute assez normal. Et une fois que Jean-Luc Mélenchon avait épuisé le filon du parti de gauche, qu'il avait hérité du parti de gauche, souvent un filon qui a été aussi purgé. On peut penser à François Coq, Charlotte Girard, etc.
Évidemment.
Jorge Kuzmanovic. Une fois qu'il avait, pris le filon Sciences Po, on sait que c'est un filon qui est très fort pour les partis de gauche aussi, eh ben, il devait aussi produire des militants. Et donc, on voit aussi l'opportunité de mettre en place l'Institut de la Boétie sous couvert d'intérêt général, d'université
justement,
populaire,
etc.
Justement,
c'est là où c'est intéressant. Oui. Parce que ce que vous racontez, ce qu'on voit, c'est que c'est une structure qui produit des idées, qui produit des cadres, qui fait des formations, mais à destination d'un unique parti politique. Si vous regardez les autres laboratoires d'idées, vous pouvez prendre Jean Jaurès, vous pouvez prendre la Fondapol, un labo d'idées plutôt à gauche, un labo d'idées plutôt à droite. Ce qui les reproché, c'est pas qu'ils soient de gauche aussi de droite, qu'ils soient de droite, c'est qu'ils bossent exclusivement pour un seul parti. La Fondapol ne bosse pas pour un parti politique. La Fondation Jean Jaurès ne bosse pas pour un parti politique. Tous les partis de droite récupèrent les informations de la Fondation Jean Jaurès, de la Fondapol, pardon, et tous les partis de gauche récupèrent ceux, oui, de la Fondation Jean Jaurès. Et c'est là où on pose la question, et où le député du Rassemblement National demande des informations, ou demande que le ministre Amiel pousse un peu les investigations, c'est qu'on a un soi-disant laboratoire d'idées qui doit bosser pour plusieurs partis qui, en réalité, bossent exclusivement pour un seul parti. Et donc, à partir du moment où vous bossez uniquement pour un parti politique, bah, le cercle est restreint. Donc, l'intérêt général n'existe plus, même s'il est exclusivement de gauche. Et donc, les dons défiscalisés, qui sont très nombreux, Plus, quand vous êtes un fonds de notation, vous pouvez avoir des legs. Des legs, on vous file des legs, vous payez un paradis d'impôts. Donc, autant vous dire que ça rapporte beaucoup. Si on découvre, à la suite de cette enquête, que les juges, un parquet ou un ministre qui pousse découvre qu'en fait, bah, il ne coche pas les cases du laboratoire d'idées, bah, tout ce qu'il a récupéré comme argent défiscalisé ou comme legs n'est pas légal. Et je rappelle qu'il y a un précédent, Civitas, qui a été reconnu comme pas d'intérêt général. Ils ont payé plus de 50 000 euros d'amende. Parce que je crois que vous devez rendre ce que vous avez défiscalisé derrière les trois dernières années.
D'accord.
Oui. Alors, autant vous dire, Civitas, il ne ramenait pas un paquet d'oseille. Si vous avez une fondation ou une fondation d'utilité publique ou une association d'intérêt général qui brasse des millions, qui défiscalise 500 000, 600 000, 700 000, 1 million par an, ou de sa fois 3, ça fait un petit trou dans la caisse à la fin de l'année.
Et on a des chiffres sur la Boétie, justement, là-dessus, précisons par an, on sait combien ils défiscalisent et donc combien potentiellement pourrait s'élever l'amende.
On sait en réalité qu'au moment de la formation de l'Institut de la Boétie, il y a eu un don, justement, de la France Insoumise d'1 million d'euros. Et à l'époque, on a parlé d'intérêt général pour passer en fondation comme les Jean Jaurès, Gabriel Péri, etc. Il faut dépasser un seuil d'1,5 million.
C'est un fonds de dotation, c'est l'équivalent d'une fondation, mais privée, en fait.
Voilà, exactement, pour passer d'utilité publique. Et en réalité, comme Arthur le dit très bien, toutes les fondations qu'on a citées, elles sont marquées plutôt idéologiquement, mais quand elles font des notes, elles s'adressent à un public assez large. Là, on se rend quand même compte que même l'Institut de la Boétie suit une stratégie politique. Et c'est tout à fait redoutable. Et j'ai même envie de dire que dans leur intérêt, ils ont tout intérêt à le faire, justement. Je pense qu'ils préparent l'avenir avec le côté formation, comme ça, des militants. Mais s'ils le faisaient sur leur propre denier au sein du parti, on n'aurait rien à dire. À la limite, à lever notre chapeau et à dire qu'ils préparent l'avenir, que c'est des bosseurs qui travaillent. Mais là, on voit qu'il y a quand même une zone un peu ombrageuse sur le côté justement d'intérêt général, sur le côté d'éducation populaire. Alors ils ont une partie des cours qui sont apparemment ouverts au public le soir. En revanche, quand on voit quand même les personnalités invitées, alors eux vous diront, oui mais regardez, on invite un peu toute la gauche, il y a Thomas Piketty. Oui, bon d'accord, on peut, oui, mais on peut en discuter, mais vraiment on est là dans un organe de continuité quasiment de la France insoumise et ça pose question notamment avec ses fonds, ses rescrits,
etc. Marcel Gauchet n'est pas invité, ni Alain Finkielkraut, bien que il soit encore le seul à croire qu'il est de gauche. Marcel Gauchet, non. Mais ils ne sont pas invités. Alors, en effet, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'un parti politique vit, entre autres, de dons défiscalisés, mais ces dons sont plafonnés, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres instituts, donc des questions se posent. Est-ce qu'il y a des transferts d'argent? Est-ce que lorsque la campagne présidentielle va commencer, est-ce que l'Institut de la Boétie va financer une partie via des notes de frais, via l'organisation de meetings? Bref, dans les comptes de campagne, l'Institut de la Boétie, ça ne rentre pas dans les comptes de campagne de la France Insoumise. On va vous en dire un peu plus, mais il est 19h et vous savez que bah, nous sommes complètement réglo juridiquement, nous sommes dans les clous et nous avons besoin de vos sous-sous via les dons défiscalisés.